Dimanche prochain, ce sera la journée mondiale des pauvres, la 5e journée mondiale des pauvres, puisqu'elle a été fixée depuis 2017, en ce temps très particulier de novembre, au dernier dimanche avant la fin de l'année liturgique, au dernier dimanche avant le Christ roi de l'univers. Le Christ roi de l'univers. Il faut pouvoir entendre ce que la désigne et signifie. C'est ce que dit saint Paul, le Christ qui, de riche qu'il était, s'est fait pauvre pour nous, pour que nous devenions riches par sa pauvreté. Le Christ, par la richesse même de Dieu, riche en miséricorde, riche de l'être divin, riche de l'amour absolu, s'est incarné pauvre parmi les pauvres, pour que nous devenions riches par cette pauvreté. Qu'est-ce à dire, sinon qu'il nous a révélé par cette incarnation, par sa venue parmi nous, quelle est notre plus grande richesse? Notre plus grande richesse, c'est notre liberté intérieure. La liberté d'aimer, la liberté de croire, la liberté d'espérer. Le Christ est venu nous montrer, il nous montre sans cesse quel est le chemin de la vraie liberté. Je dis la vraie liberté parce que elle n'est pas celle que donne l'argent. L'argent donne beaucoup de liberté. L'argent donne beaucoup de pouvoir. L'argent donne aussi beaucoup de satisfaction. Également des soucis. Dans ce quartier privilégié, certains m'en parlent avec lucidité. Ils ont l'honnêteté de reconnaître qu'ils ont parfois des soucis de riches. Mais des soucis peut-être, des satisfactions certainement. Encore que le mot satisfaction dérive, vous savez, du latin, d'un adverbe latin satis, qui veut dire assez, suffisamment, et de l'argent, on n'en a jamais assez. Des soucis, toujours trop. Si j'en parle, c'est parce que ces satisfactions sont remarquablement décrites dans la première partie de l'Évangile. La satisfaction, d'abord, il faut pouvoir en rendre compte, d'avoir fait des études. D'avoir pu faire des études, il suffit simplement d'avoir été scolarisé, de ne pas être désillettré, il suffit simplement de voyager, de rencontrer d'autres personnes, d'autres mondes, d'être comme les scribes, de savoir beaucoup de choses. C'est une grande satisfaction d'être cultivé. Le texte parle ensuite de vêtements d'apparat. Que ce qu'on dirait aujourd'hui à la mode, du dernier cri. En tout cas, la satisfaction, parce que c'était quand même un des grands passe-temps modernes, la satisfaction de pouvoir en acheter tant et plus. De passer son temps à acheter des vêtements, même si on reconnaît par ailleurs que ce n'est pas forcément très écologique. Et puis enfin, le plaisir d'être reconnu, honoré. À l'époque, ce n'était pas dans les réseaux sociaux, c'était dans les synagogues et les dîners. Et voyez comment dans ce texte, soudain coup, ça dérape, c'est la chute, avec ce mot qui fait tache, dévorer. Il dévore les biens des pauvres. Le texte dit des veuves, mais les veuves en sont le symbole. Avec une voracité, une férocité, alors que pour l'apparence, ils font de longues prières. Toute personne, même en l'apparence la plus pieuse, toute personne est capable de méchanceté. De méchanceté. C'est cela, dévorer les biens des pauvres, les biens des veuves. Et il y a ce contraste si fort avec la suite, la pauvre veuve du temple qui vient de donner tout ce qu'elle avait, aussi malheureuse qu'elle puisse être, qu'on puisse l'imaginer, seule, sans ressources. Elle a été capable de se sacrifier, de tout donner, de la plus grande générosité pour Dieu, et on pourrait même dire à son image. Parce que toute personne est également capable de la plus grande générosité. Et parmi toutes les intentions de prière que je porte, j'ai actuellement en permanence au cœur, à l'esprit et même aux entrailles, un couple que j'ai marié il y a quelques années, dont la petite fille de 2 ans est hospitalisée en réanimation, en soins intensifs depuis 3 mois. Et depuis 3 mois, ils se relayent en permanence, l'un après l'autre, une nuit sur deux, l'autre rentre pour s'occuper de l'aîné, un garçon qui a 5 ans. 3 mois qu'ils n'ont pas passé une nuit ensemble. Et comme dit le papa qui est un sportif, il dit c'est un marathon, mais on n'en connaît pas la fin. Et elle m'a dit cette semaine, quand je sors, j'aimerais avoir un badge enfant très malade, pour qu'on fasse attention à moi, qu'on me traite avec délicatesse, pour ne pas être rudoyée, tant elle est écorchée vive, pas seulement épuisée, mais écorchée. Et pourtant, entre deux larmes, elle est comme j'ai toujours connu, souriante, aimable. Il y a l'amour de son mari, il y a l'amour de sa sœur, il y a le soutien de tant d'amis. Il y a la prière et il y a la Vierge Marie qui les empêche de désespérer. Je les confie bien sûr à votre prière, l'enfant s'appelle Clémentine. Tout homme est capable pourtant de méchanceté. L'Écriture a une expression, la Bible parle plus exactement, d'endurcissement du cœur. Endurcissement du cœur. Mais le danger que nous courons tous, c'est d'utiliser des formules, d'attiédir cela, de minimiser ou de relativiser, de dramatiser, on dirait, oh bon non, c'est peut-être un peu d'indifférence, c'est de la négligence. Non, c'est parfois de la méchanceté. Cela peut être cela. Et c'est au dernier jour, c'est à la fin, c'est lorsque nous serons face au Christ ressuscité que se fera véritablement le choix de notre vie. Nous serons peut-être comme la pauvre veuve dans le temple. Nous comparaîtrons tous, pauvres, nus, en vérité. Et se révélera alors, on ne va pas dire le fond de notre cœur. Ce n'est pas le sujet. On dit, oh ben, il y a un bon fond. Non, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le fond de notre cœur. C'est le contraire. Son endurcissement, sa carapace. La possibilité que notre cœur soit devenu dur comme de la pierre. Et la possibilité terrible, j'en ai déjà parlé, mais il faut pouvoir en parler, de la seconde mort, la mort éternelle des damnés. Tout homme, toute personne est capable de méchanceté. Si on touche assez bien à sa chair ou à la chair de sa chair. Et vous savez que c'est le point de départ du livre de Job. Job, un homme magnifique en qui Dieu a tellement confiance qu'il permet à Satan de le mettre à l'épreuve. Évidemment, c'est un conte, c'est une parabole. Tu peux le mettre à l'épreuve, tu pourras vérifier sa fidélité. J'ai confiance, il est bon, il est fidèle, il résistera. Je vous le dis encore, c'est une parabole. Et bien qu'il ait perdu ses enfants, tous ses biens, tout ce qu'il avait jusqu'à sa santé, malgré la souffrance, comme c'est une parabole, malgré la pression de sa femme, malgré l'ignorance de ses amis, Job tient bon dans la foi et, combien, 6-7 siècles avant le Christ, il fait une des plus formidables professions de foi. Je sais, moi, que mon libérateur est vivant et qu'à la fin, il se dressera sur la poussière des morts. Je sais qu'avec mon corps, je me tiendrai debout et avec mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai, et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. Dans l'évangile de Saint Jean, à un moment donné, Jésus qui fait face à ses détracteurs, qui sont pour certains des gens méchants, là en l'occurrence, il l'accuse d'être du diable, alors qu'il a fait des miracles, il l'accuse d'avoir un démon, d'être, tu es un samaritain, tu es un démon. Et Jésus fait cette réponse stupéfiante, il dit... Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. On peut l'entendre simplement comme la vision que Abraham a eue après sa mort de la lumière divine, celle que nous verrons, la Trinité Sainte. Et puis on peut l'entendre aussi de façon beaucoup plus forte, comme la révélation de la vraie nature de la foi d'Abraham, la raison pour laquelle il nous est donné comme modèle. Abraham ne croyait pas à un vague bon Dieu, il ne croyait pas à un bon Dieu de monde de piété. Il croyait à l'amour du Père, il croyait à la force de l'Esprit Saint, et donc il croyait au Christ. La lettre aux Hébreux dit que, grâce à la foi, quand il a été soumis à l'épreuve, Abraham a offert son Fils unique en sacrifice. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. Avoir la foi, c'est croire à la résurrection et savoir que toute la bonté de Dieu est là, qui a voulu en son Fils Jésus-Christ passer par la croix et par la mort pour nous donner la vie. Je crois au Christ, pas un vague bon Dieu.